Vous écoutez toujours Radio Zone, Ondes Femmes 93.8, comme tous les mercredis, en direct dans nos studios de Ferney jusqu'à 18h30 et rediffusé le mercredi soir à 23h et le jeudi à 11h du matin. Nous sommes en compagnie de Clotilde Halenik de l'Association pour l'Union entre les peuples juifs et palestiniens. D'ailleurs, dans ce sens, tu as une nouvelle toute récente à nous transmettre, puisqu'il vient d'avoir une nouvelle interdiction contre les travailleurs des territoires occupés, qui vise cette fois-ci particulièrement les célibataires, c'est ça ?
Elle vise particulièrement les hommes en dessous de 30 ans, qui n'ont plus le droit du tout, surtout dans la bande de Gaza, d'aller travailler en Israël, suite à un certain nombre d'attentats, des actes désespérés d'individus qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus rien à perdre. Qui deviennent fous, qui s'en prennent à des civils, ce que nous ne cautionnons pas du tout, hein, il faut être clair là-dessus. Mais disons, nous n'acceptons pas non plus qu'à cause de 2-3 actes isolés comme ça, on s'en prenne à une population entière. Ce sont des punitions collectives. Or, la quatrième convention collective de Genève interdit les punitions collectives, quelles qu'elles soient, et la Suisse en est la gardienne, le garant, et devrait veiller à ce que ces conditions soient appliquées. Bon, on sait très bien qu'Israël ne les a jamais respectées. Et du reste, se défend d'avoir à les respecter en prétendant que les territoires occupés juridiquement n'appartenaient à personne, n'étaient pas indépendants avant. Donc ils ne sont pas proprement parlé des territoires pris à un autre pays ou à un autre État. Bon, c'est une justification fallacieuse, puisque les quatrièmes conventions ne parlent pas spécifiquement de territoires pris à un autre État. Donc, les États occidentaux, et la Suisse en particulier, devraient absolument faire pression pour qu'Israël respecte cette quatrième convention et mette un frein à ces punitions collectives inadmissibles. Donc, punir un peuple entier pour des actes qui sont le fait d'individus, simplement.
Est-ce que, je voulais te demander encore, Clotilde, le fait que votre association est réunie dans un premier temps des gens qui sont d'origine juive, est-ce que cela a un poids particulier ? Bon, aujourd'hui, vous ne réunissez pas que des gens juifs, vous réunissez des gens juifs qui sont aussi ailleurs qu'en Suisse, mais est-ce que c'est un poids particulier que vous, juifs, vous engagiez dans la lutte en faveur de la lutte des Palestiniens ?
Je crois que c'est très important à plus d'un titre. D'abord, c'est important de montrer que les juifs ne forment pas un camp monolithique, qu'à l'intérieur, il y a des opinions différentes, il y a des intérêts divergents, il y a des degrés d'engagement pour des causes humanitaires qui ne sont pas les mêmes, et que on n'est pas forcément antisémite parce que l'on critique l'État d'Israël, vu que les Juifs eux-mêmes sont partagés dans des tendances et des opinions diverses, heureusement du reste. Ce que je dirais, c'est que malheureusement, la majorité d'entre eux, que ce soit dans le monde ou en Israël, s'identifient à l'État d'Israël et se sentent obligés de le défendre à tout prix, en invoquant le fait qu'ils ont été persécutés, en invoquant l'Holocauste, les souffrances qu'ils ont vécues eux-mêmes, à mon avis, cela ne justifie rien. Et au contraire, je crois que quand on a traversé la situation d'un peuple qui a vécu l'oppression, on doit être d'autant plus sensibilisé à l'oppression des autres. C'est mon cas, disons, ayant été sensibilisé en tant qu'enfant d'une famille juive dont les parents ont vécu les camps de concentration, dont les grands-parents immigrés de Pologne et de Russie ont vécu les ghettos, les pogroms, enfin, toutes les horreurs qu'on connaît. Pour moi, ça a été une raison, d'être contre le racisme, d'être contre le colonialisme, d'être contre toute forme d'asservissement des peuples. Et cela, je l'ai projeté aussi bien sur le peuple palestinien. J'estime que nous n'avons pas à nous identifier à un gouvernement, à un État ou à une doctrine qui, en notre nom, en prétendant représenter les Juifs du monde entier, reproduit ce qu'elle dénonce, ce qu'elle a dénoncé historiquement. Donc, normalement, les Juifs devraient être beaucoup plus partagés sur cette question. Ils l'ont été dans le passé. Au début du siècle, enfin à la fin du XXe siècle, quand le mouvement sioniste a commencé à naître, quand ses fondateurs ont commencé à avancer cette idée d'un État juif, l'immense majorité des populations juives occidentales ont été complètement opposées au sionisme. Il y a eu des mouvements, même composés par des congrégations religieuses, par des rabbins, qui ont dit « mais ça n'est pas du tout ce que la Bible préconisait, elle ne nous a pas demandé d'avoir un État, une armée, une police, d'aller conquérir un État, de l'arracher à ses habitants. Il y avait au contraire un rêve de réunification. C'était le Messie qui devait rassembler les Juifs sur la terre d'Israël. » Et ça devait être fait en bonne entente avec tous les autres peuples. Il y avait là un symbole d'humanisme évident, qui n'est pas du tout le cas des fondateurs du sionisme et de leur de ceux qui ont actualisé leur doctrine dans l'histoire et la reproduisent aujourd'hui. Donc, je veux dire, si aujourd'hui il y a un consensus autour de cette idée d'État d'Israël, ça a été loin d'être le cas jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et les écrits qui dénoncent l'origine du sionisme, qui dénoncent la création de l'État d'Israël, les écrits les plus forts qui existent aujourd'hui, sont des écrits d'anciens Israéliens ou de Juifs, comme Israël Shahak, comme Uri Davis, comme le rabbin Elmer Berger, comme Leni Brenner, qui est aussi un Juif américain, et beaucoup d'autres, énormément d'autres. Je crois que c'est eux qui nous ont alerté les premiers sur l'exaction qui a été commise en 1948. Donc, il est important que des Juifs parlent, s'expriment, parce que dans les pays occidentaux subsiste un espèce de malaise, de sentiment de culpabilité. Nous avons laissé se faire l'Holocauste, nous n'avons pas réagi suffisamment, nous l'avons cautionné de notre silence, donc nous devons quelque chose au peuple juif, donc nous devons... Nous ne sentons pas le droit de critiquer l'État d'Israël. Et je crois, et bon, c'est une culpabilité que tous les mouvements sionistes se chargent d'entretenir largement. Dès que quelqu'un se permet la moindre critique, il est taxé d'antisémite. Et il ne faut pas accepter cet argument. Et je crois que l'importance du fait que des Juifs parlent, ça n'est pas que ce qu'ils disent est différent que ce que dirait un Palestinien ou n'importe qui lutte pour les droits humains, mais qu'ils contribuent à détruire ce mythe que si on touche à l'État d'Israël, on touche aux Juifs dans le monde.
Oui, ça c'est vrai, parce qu'on peut constater souvent que ça peut même entacher parfois certaines amitiés, dans le sens que c'est quelque chose qu'on nous reproche toujours à nous, non-Juifs, de jamais rien comprendre, hein, comme si on était incapable de sentir le poids d'un passé, et on attache toujours la réalité de l'État d'Israël au poids de ce passé. Alors vous avez décidé de faire la rupture entre les deux choses.
Oui, absolument. Je crois qu'il y a une pression très très lourde qui pèse sur tous ceux qui ont des amis juifs ou qui appartiennent à des familles juives, tout simplement. Et je crois que ce serait intéressant un jour de recueillir des témoignages. Du reste, les gens qui ont quelque chose à dire là-dessus pourront me contacter. Ça m'intéresserait énormément de les entendre. Mais de la difficulté de parler, de prendre position, d'oser s'opposer quand on est juif. Ou bien quand on n'est pas juif et qu'on a des amis juifs, auprès de qui on sent toujours cette espèce de pression. Si tu veux qu'on continue à t'accepter, à t'aimer, si tu veux être notre ami, ne parlons surtout pas de ça. Donc on accepte de ne pas parler de ça. À mon avis, c'est l'inverse qu'on devrait faire. Si on aime les juifs, si on aime des juifs, parce qu'aimer les juifs, ça ne veut rien dire, mais si on a des amis juifs et qu'on les aime, ou que la cause de ce peuple nous tient à cœur d'une façon ou d'une autre, eh bien, au contraire, obligeons-les à nous entendre, obligeons-les à entendre le fait qu'ils sont sur une pente qui est dangereuse, qui est mauvaise pour eux-mêmes, qu'eux-mêmes se dégradent là-dedans, qu'ils y perdent leur âme, qu'ils y perdent leurs valeurs, les valeurs dont ils se sont revendiqués pendant des siècles et dont ils ont été fiers. Donc, aidons-les à avoir un sursaut et à dire « non, je ne peux pas être partie prenante de cette expérience ». Je ne veux pas être partie prenante de cette entreprise. صخرها قدوا عنتهم واسترشدوا بالكوكب الذهبي. Extrait du journal d'Arna Mer du groupe
Care and Learning, octobre 1991. Trois condamnations à vie, plus 20 ans de torture, isolement, grève de la faim. Mohamed Ahmed Mahmoud Sabag, au camp de réfugiés de Jenin, est né en 1974. Il est élève de l'école secondaire Al-Tanwiya. Il a été arrêté le 31 janvier 1991 et condamné sous l'inculpation du meurtre d'un gardien de prison collaborateur dans la prison de Jenin. Durant ses trois premiers mois de détention dans la prison, pour mineurs de Tel Monde, ses parents ont pu le visiter deux fois. Lors de la troisième tentative, ils ont été informés que leur fils était transféré à la prison de Hebron. Là-bas, on leur a dit qu'il n'y était pas. Une semaine plus tard, la Croix-Rouge leur a confirmé qu'il s'y trouvait bien. Ils ont refait le voyage tortueux et ont obtenu l'autorisation de visiter Mohamed. Ils l'ont trouvé amaigri, les yeux enfoncés dans les orbites, ses mains habituellement menottées, libérées pour la visite. Mohamed était confiné dans une cellule d'isolement. Ses cris de souffrance n'étaient entendus de personne. Il avait entamé une grève de la faim de 12 jours pour être sorti de la cellule de torture et pouvoir rejoindre les autres prisonniers. Lors de notre seconde visite à Hebron, il allait mieux. Mais nous n'avons pas été autorisés à lui donner de vêtements, de cigarettes, de nourriture et de livres. La semaine suivante, nous avons appris qu'il était transféré à Beersheba. Le père se rendit à la Croix-Rouge de Jérusalem, laquelle emmenait les familles visiter les prisonniers à Beersheba. Arrivé là-bas, le père apprit que son fils n'y était pas. Seul, sa peine à chercher de section en section, sa fureur et le tapage qu'il mena permirent de retrouver Mohamed. « Nous l'avons vu, dit le père. Ses mains étaient attachées derrière son dos et il criait à l'aide. « Faites-moi sortir d'ici, vendez ce que vous avez. Ils me tueront ici, je deviens fou. » Une cellule étroite, un baquet pour ses besoins, pas de sortie, pas le droit de voir quiconque. Il était maigre, le visage tiré, le regard absent. Ses parents tentaient de communiquer avec lui, mais il criait tout le temps et n'expliquait pas. Pendant le nouvel an musulman, les visites furent autorisées dans toutes les prisons. Ce fut publié dans la presse, mais les parents de Mohamed n'eurent pas ce droit. Le père ne se résigna pas. Une semaine plus tard, il alla à Beersheba, cette fois sans sa femme. Il eut le droit de voir Mohamed pendant quelques minutes, puis il rentra à sa maison, brisé, désespéré. Son fils lui avait parlé de sa vie en prison, ce qu'il s'était retenu de faire devant sa mère pour ne pas aggraver sa souffrance. Cette semaine, il avait été frappé avec un tuyau de caoutchouc. Ses cris avaient provoqué une grande agitation parmi les détenus de sa section, qui protestèrent contre le fait qu'on frappe un garçon de 17 ans. Le compte-rendu que Mohamed fit à son père sur les tortures, l'isolation, les coups et mauvais traitements subis ne resta pas impuni. Les parents eurent l'interdiction de visiter leur fils pendant deux mois. Pourquoi ? Parce que Mohamed entreprit une seconde grève de la faim de 20 jours. On ne sait plus rien de sa condition actuelle. Il est condamné à 3 ans d'emprisonnement. Le verdict de la cour était-il de le molester ou de le punir ? Les prisons sont-elles des champs de vengeance pour les dirigeants et surveillants de la prison ? Nous demandons de stopper immédiatement les mauvais traitements envers le jeune Mohamed Ahmed Mahmoud Sabag. Numéro d'identité 9-01-203-76-0. En le sortant de l'isolement, en le transférant dans la section des mineurs de la prison Jenad, où les mineurs purgent de longues peines, de laisser les membres de leur famille le visiter en accord avec les normes de la prison. C'est un droit de base humain et légal. La maison de la famille Sabag a été démolie à minuit, le 12 janvier 1991. Le 17 octobre 1991, l'avocat M. Shahadi de Beersheba a pu visiter Mohamed. Ils ont cessé de le frapper. Il a arrêté sa grève de la faim. Il est toujours maintenu à l'isolement et menotté avec des chaînes quand il sort dans la cour.
Dans le cadre de l'association pour l'union entre les peuples juifs et palestiniens, vous avez entrepris un certain nombre d'actions, parfois très symboliques, mais qui ont eu un poids énorme et qui ont soulevé un tollé, entre autres au niveau de l'ambassade israélienne à Berne, très important. Une fois, vous vous êtes trouvé très précisément aux côtés des femmes palestiniennes déportées, avec un soutien de femmes juives qui étaient d'accord de parler au nom de ces femmes. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette action en quelques mots, pour qu'on comprenne un petit peu quel pouvait être l'engagement concret de votre association ?
Alors, effectivement, lors de mon dernier séjour dans les territoires occupés, j'ai entendu parler de ce fait absolument inconcevable qu'une partie des femmes palestiniennes et de leurs enfants n'étaient pas considérées comme résidentes de la Cisjordanie, parce qu'au moment des recensements que le gouvernement israélien avait fait en 67, au moment de l'occupation, elles n'étaient pas là pour différentes raisons. Soit elles avaient fui, soit elles avaient été chassées. Oui, elles avaient fui les avancées de l'armée, elles s'étaient réfugiées en Jordanie. Et certaines sont revenues après, ou d'autres sont revenues 20 ans plus tard pour épouser des cousins, comme cela se fait dans la tradition de pas mal de peuples arabes. Et elles sont revenues avec un permis de visite, un permis de visite limité à une période donnée. Et bon, pendant un certain temps, les autorités israéliennes ont fermé les yeux sur le fait qu'elles restaient là, vu qu'elles avaient épousé un Palestinien qui, lui, avait un droit de résidence. Mais au moment de l'intifada, par mesure aussi de punition collective, en tant que mesure pour briser cette résistance, on a commencé à recenser ces femmes qui étaient considérées comme vivant illégitimement en Cisjordanie, et on a commencé à les expulser d'une façon absolument incroyable. On recensait un certain nombre de femmes dans un village. L'armée arrivait sans avertissement, en pleine nuit, avec des méthodes d'une violence insoutenable, en d'abord faisant sortir tous les hommes des maisons, les réunissant dans le préau de l'école avec les mains croisées dans la nuque. Et pendant ce temps, on emmenait les femmes dans des jeeps militaires. Et on les obligeait en plus à payer une amende. On ne leur laissait même pas 5 minutes pour préparer des affaires. Elles partaient sans rien. Une partie des gosses qui étaient sur la carte d'identité du père pouvaient rester. D'autres qui n'y étaient pas étaient déportés avec la mère. Et on allait les déposer en Jordanie, de l'autre côté du pont Allenby, ce fameux pont qu'on a appelé le pont des larmes. Et ces femmes partaient sans rien. Rien, pas de bagages, pas de baluchons, même pas pouvoir dire au revoir à leur famille. Elles étaient larguées comme ça de l'autre côté. Bon, on a trouvé ça inacceptable. Et on a commencé une enquête à ce sujet sur le terrain, c'est-à-dire deux membres de notre association sont allés successivement sur place, une fois une femme, une autre fois un homme. Et avec l'aide d'organisations palestiniennes, nous avons pu faire une enquête directe sur le terrain. D'abord dans les familles de Cisjordanie, dont les femmes et enfants avaient été déportés, et ensuite en Jordanie même, dans les camps où ces femmes vivaient, ou croupissaient plutôt. Donc, du reste, les femmes qui ont été interviewées sur place nous ont dit que c'est la première fois que nous sommes contactées par quelqu'un depuis notre déportation. Même le CICR n'est jamais venu nous voir. On a pu constituer 13 dossiers de femmes déportées et on a recherché des femmes juives en Suisse qui symboliquement signent un document comme quoi pour cette femme déportée, pour une femme particulière, elle renonçait, elle, à leur droit de retour en Israël, puisque une loi accorde un droit de retour à n'importe quel juif dans le monde, même s'il n'a jamais vécu là-bas depuis des dizaines de générations. On appelle ça la loi du retour, et qu'elle renonçait symboliquement à ce droit au profit d'une femme palestinienne déportée pour qu'elle puisse revenir dans sa patrie, dans sa maison, auprès de sa famille. Nous avons difficilement, mais tout de même, pu recueillir ces 13 signatures, après quoi nous avons fait une lettre pour l'ambassade d'Israël expliquant le pourquoi de cette action, et développant un peu tout ce que nous connaissions de ce problème et demandant de cesser ces pratiques, de faire pression pour que le gouvernement cesse ces pratiques inacceptables. Et nous avons recueilli la signature de 29 organisations suisses, chrétiennes, humanitaires, de tous bords vraiment, qui l'ont signée. Et nous avons écrit à l'ambassade pour annoncer que nous allions apporter ces 13 documents avec cette lettre d'accompagnement, en demandant très poliment qu'ils veuillent bien recevoir une de nos délégations pour un dialogue. Et en fait de dialogue, en arrivant en bas de la rue où se trouve l'ambassade à Berne, nous avons trouvé des forces de police qui nous ont empêchés de passer. Il y avait peut-être par hasard un hélicoptère qui tournait là au-dessus, et pas du tout par hasard, alors un fourgon de police que nous avons photographié avec tout notre groupe, avec les plaques de police. Donc, il n'était pas question de nous laisser approcher de l'ambassade. Et les policiers sont allés porter eux-mêmes les documents, les remettre dans les mains de l'ambassadeur. On m'a permis simplement à moi d'aller sur le trottoir d'en face, parce que le reste du groupe était resté 100 mètres plus bas dans la rue. Et j'ai pu voir à travers les interstices du volet de la fenêtre les gens qui prenaient les documents et s'esclaffaient de rire à l'intérieur. Voilà ce qu'est devenu notre action. En plus, nous avions établi 90 dossiers de presse détaillés avec toutes les informations sur ce problème des déportations. Nous les avons envoyés personnellement à des journalistes que nous connaissions, à des agences presse. Nous avons convoqué les gens sur place à Berne au moment de l'action, ensuite dans un café. Un seul journaliste qui est venu, personne. Nous avons fait nous étions 15 femmes déléguées donc pour aller à l'ambassade. Nous avons passé un communiqué de presse après qui n'est paru nulle part. Donc il y a eu un silence, peut-être aussi par hasard comme l'hélicoptère, qui fait que nulle part cette action n'a été répercutée dans les médias, malheureusement. C'est quelque chose de vraiment désespérant. De penser qu'une voix autre, différente, ne peut pas se faire entendre.
Mais à ton avis, Clotilde, alors qu'est-ce qui fait que les journalistes ne peuvent pas évoquer ce genre de sujet-là ? Parce qu'à ton avis, c'est qu'ils ne peuvent pas.
Je leur retourne la question, puisque nous avons l'occasion de nous adresser au public. Je demande aux journalistes qu'ils m'expliquent pourquoi ils ne sont pas venus à cette action ou à d'autres, et pourquoi, lorsqu'ils viennent, rarement quelque chose passe.
Aucun contact informel avec des journalistes, sans les citer, ne vous a donné une explication de ce silence des médias.
Disons que lorsque nous faisons venir quelqu'un d'Israël, ou de Palestine, nous faisons un très grand effort. J'ai consacré une quinzaine de jours à avoir des rendez-vous lorsqu'Arna Meir est venue, avec différents journaux. Je l'ai accompagnée personnellement dans la plupart des quotidiens romans. Elle a été interviewée par la plupart d'entre eux. Et il y a eu un article dans Le Courrier et quelques lignes dans La Tribune, mais tous les autres journaux qui l'ont interviewé, rien n'a passé. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, je pose la question aux journalistes. Ça a été la même chose pour Marion Sigaud, ça a été la même chose pour Amir Arras.
Et des 13 documents, de ces femmes expulsées, est-ce que vous les avez gardés ? Est-ce que c'est des choses que vous pourriez publier, par exemple ?
Alors, nous avons gardé des photocopies, parce que pour l'ambassade, nous avons fait des beaux documents sur papier parcheminé, pour leur donner quelque chose d'un peu, un caractère presque sacré, ancien, biblique, mystique. Et nous avons des photocopies de ces documents qui sont tout à fait publiables.
Et qui seraient radiophoniques ?
Le texte est toujours le même. Donc il s'agirait de lire une fois le texte et éventuellement le nom des personnes qui l'ont signé. Je ne sais pas si elles seraient ravies que leur nom soit divulgué publiquement. Il faudrait peut-être leur poser la question avant.
Ah, parce que dans le sens que le document n'est pas aussi l'histoire de chacune des femmes que vous avez interviewées.
Non, elles se contentent de donner leur nom.
Je crois que vous avez aujourd'hui, Clotilde, une série avec l'association, toute une série d'actions, enfin en tout cas de thèmes que vous portez, que l'on retrouve régulièrement dans votre journal, qui, rappelons-le, donc a pour titre Une terre de peuple et qui paraît chaque mois. Donc il y a des thèmes qui reviennent. Par exemple, les nouvelles de l'organisation de soutien aux femmes prisonnières, chaque mois il y a des nouvelles. Y a-t-il d'autres sujets qui, en ce moment, vous semblent les plus importants, même s'il est difficile de faire une hiérarchie dans l'importance des sujets ?
Bon, nous soutenons tous les groupes qui, sur le terrain, luttent contre les violations des droits de l'homme. Et si nous en connaissons d'autres, nous les soutiendrons aussi. Pas des groupes de discussion, de débat, de prise de position théorique, mais des groupes qui vraiment agissent, sont concrètement solidaires, sont dans les territoires occupés une partie de leur temps. Alors bien sûr, nous essayons, un, de les faire entendre. Pour ça, notre journal est indispensable, vu les difficultés d'avoir une audience dans les médias. Nous essayons aussi de trouver des fonds pour les aider financièrement, parce que ces groupes, souvent, ont des moyens très très restreints pour se battre. Et ils ont besoin de fonds, particulièrement Arna Meir, qui doit développer ses centres Care and Learning, qui doit faire face à une misère grandissante des enfants qu'elle protège, qui essaye parfois de les faire sortir de prison, parce que les gosses sont incarcérés, torturés aussi bien. Donc, nous soutenons ces groupes. en les faisant entendre, en répondant à leurs demandes de faire des pétitions, d'exercer des pressions sur le gouvernement d'Israël. Sans arrêt dans notre journal, il y a des appels à écrire pour défendre telle ou telle prisonnière, pour faire cesser telle ou telle pratique. Parfois, des groupes de femmes palestiniennes nous écrivent en disant « Nous avons eu des raids de soldats qui nous ont terrorisés, qui ont terrorisé nos enfants pendant la nuit, qui ont mis à sac nos maisons. Nous demandons que ces pratiques cessent. » Donc, nous faisons circuler des pétitions. Nous avons fait des pétitions sur le problème des juifs soviétiques qui ont fui Israël parce qu'ils n'y tenaient plus. Contrairement à ce qu'on croit, les juifs soviétiques qui arrivent là-bas rencontrent des conditions très très difficiles et sont en but à des discriminations parce qu'ils ont contracté des mariages mixtes, parce que l'un des conjoints n'est pas juif ou que les enfants ne sont pas reconnus comme juifs si la mère ne l'est pas. N'étant pas circoncis, ils sont repérés facilement par leurs camarades d'école et ils subissent des mesures d'humiliation et de violence incroyables. Donc pour ces raisons, beaucoup de juifs soviétiques essayent de repartir. Soit officiellement quand ils remplissent les conditions, qu'ils ont remboursé tout ce qu'ils doivent à l'État, soit clandestinement. Et une partie d'entre eux s'est réfugiée en Hollande. Et de là, la Hollande, probablement avec certaines pressions, a refusé de leur accorder l'asile et les a redéportés très violemment en Israël, une partie d'entre eux du moins. Et nous, on s'est battu pour que des pays d'Europe acceptent de recevoir les autres qui étaient encore terrés en Hollande, qui se cachaient sous des bancs d'église ou n'importe où, pour ne pas à tout prix pas retourner en Israël. Donc là aussi, on a fait circuler une pétition. Maintenant, on s'attaque au problème des unités spéciales déguisées de l'armée israélienne, déguisées en arabe, qui se mélangent à la foule et abattent sur le terrain des Palestiniens recherchés pour toutes sortes de raisons. Donc ce sont des exécutions sommaires, ce sont des pratiques qu'on a dénoncées quand il s'agissait de l'Afrique du Sud et dont personne ne parle lorsqu'il s'agit d'Israël. Il est inacceptable qu'on puisse liquider des gens de cette façon, en pleine place publique.
Ça, par contre, c'est un sujet qui est paru dans les journaux, d'ailleurs un peu à ma grande surprise aussi. On a beaucoup entendu parler de ça dans les journaux.
On en a entendu parler peut-être essentiellement grâce au fait qu'un couple israélien qui se disait de droite, qui vote pour le Likoud, qui est tout à fait loyal envers la cause de l'État d'Israël, a une fois, par hasard, assisté, était témoin d'une de ces exécutions sommaires et a été tellement horrifié qu'ils l'ont divulgué dans les médias. Ils en ont parlé partout, ça a paru dans la presse anglaise, américaine, enfin de tous les pays occidentaux. Donc je crois que c'est un petit peu grâce à ça que c'est allé plus loin, parce que souvent, l'armée décrète qu'une zone dans laquelle elle intervient est une zone de sécurité militaire, aucun journaliste n'est autorisé à y entrer. Et ils agissent en toute impunité, on ne sait pas ce qui s'y passe. Par exemple, pendant les couvre-feux, tels qu'ils sont en train d'être pratiqués à Gaza maintenant, l'armée a toute liberté de faire n'importe quoi et personne ne le sait.